Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut à tous, c'est Amine, de retour pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Aujourd'hui marque le grand retour de nos post-mortem individuels, même s'il y a eu un gros post-mortem déjà passé récemment avec les éliminés du play-in. Donc je vous rappelle le concept: après chaque élimination en play-off, on revient sur le parcours des éliminés et surtout on essaie de faire un état des lieux complet pour l'avenir. Donc pour commencer aujourd'hui, on va parler du premier éliminé de ces play-offs tout simplement. Les Phoenix Suns, et pour nous éclairer sur la grande déception du FC Soleil, aujourd'hui avec moi, ce sera Tom. Comment ça va, Tom ? Dossier complexe, les Suns, aujourd'hui. Hein.
C'est ça, bah écoute, ça va très bien, Amine. Hein. Moins d'attachement émotionnel pour moi pour ces post-mortem, vu que Memphis ne fait pas les playoffs, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter basket, et en plus discuter basket avec toi, quoi. Donc c'est cool.
Ah, tu me fais un grand honneur, moi aussi, c'est un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble.
Effectivement.
Donc, ça fait plaisir, ouais. C'est le retour de la grande équipe du CBA pour parler des Suns, c'est plutôt pas mal.
Mais tu vois, on revient sur le côté CBA, surtout qu'on va devoir en parler avec les Suns.
C'est clair. Donc avant de commencer aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner sur les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., sur YouTube et sur Twitter pour ne rien manquer à nos podcasts. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je le rappelle, les Suns sweepés au premier tour, 4-0 par les Wolves, après une saison très poussive, une équipe que pas mal d'entre nous, je dirais même, parce que j'en faisais partie, voyez pourquoi pas inverser la tendance et battre ces Wolves dans ce premier tour. Tom, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette courte série de playoffs et surtout par rapport aux attentes, quoi?
Bah du coup, je pense que par rapport aux attentes, on est resté un peu amoureux de la théorie de cette équipe des Suns et surtout des résultats récents, puisque sur les deux dernières semaines de compétition, ils s'affrontent, je crois, deux ou trois fois, et les Suns arrivent à tirer le meilleur de ces Wolves. Et du coup, bah il y a eu plusieurs choses du coup dans cette série de playoffs qui se sont passées malgré le fait qu'elle soit courte. On a vu une équipe de Phoenix qui a été en difficulté déjà en défense. Défensivement, c'est une équipe qui a été bougée physiquement, qui n'arrivait pas à... La plupart des joueurs n'arrivaient pas à rester en face de leurs joueurs, qui concédaient assez rapidement des décalages, qui donnaient lieu du coup à des tirs au cercle et aussi à des tirs dans les coins, notamment parce qu'ils avaient une incapacité déjà à défendre le pick and roll à deux. À chaque fois, ils étaient obligés d'impliquer un troisième joueur et ça les mettait en rotation. Et t'avais une autre problématique, c'est la défense globalement sur Anthony Edwards. Ils étaient quasi incapables, ou du moins ils ont rarement pu l'empêcher de toucher la raquette. Et à partir du moment où Anthony Edwards arrive à toucher la raquette, surtout qu'il a été plutôt adroit, notamment dans le jeu intermédiaire, bah, du coup, ça compliquait beaucoup la tâche de cette défense qui était beaucoup en rotation, et étant beaucoup en rotation, ben ils ont subi beaucoup de rebonds offensifs puisque voilà, tu peux pas vu que tes joueurs sont en rotation, personne n'est placé pour faire les box out. Donc ils ont subi un peu la taille de Rudy Gobert, la taille de Karl-Anthony Towns, et aussi tu vois l'activité de gars comme Kyle Anderson, McDaniels, voire même Conley, hein, à certains moments, qui ont pu prendre des rebonds offensifs cruciaux, et on va dire que ça leur a été fatal. C'est une équipe qui a tenté pas mal de choses aussi d'un point de vue offensif, mais qui s'est heurté à la défense des Wolves. La défense des Wolves qui a bien mis à mal. On avait bien le contraste en fait sur la série entre une équipe qui entre guillemets était un peu lente et qui se faisait dominer sur le plan physique défensivement avec ses Suns, là où par exemple qu'on prenait la défense des Wolves. La défense des Wolves était beaucoup plus active, en gros, le plan, c'était un peu d'isoler Kevin Durant, puisque Kevin Durant, on en avait discuté lors du DH20, quand Kevin Durant te fait mal, il te fait mal tout seul. il va te mettre ses jumpers, tout ça. Mais en fait, il y aura très peu de diffusion. Et donc, ça a été globalement ça. L'attaque a été très en difficulté. On a eu Devin Booker qui a eu du mal à prendre du volume, même si bon, il se rattrape un peu sur le dernier match, mais il a eu vraiment du mal à prendre du volume. Et en fait, ils ont subi la défense des Wolves parce que tout simplement, ils arrivaient pas à se mettre dans des positions et ils si tu veux la pace, alors pas la pace au sens statistique hein, mais la vitesse à laquelle ils arrivaient à se mettre en position de générer un tir était totalement compliquée, ça a totalement enrayé l'attaque des Suns qui a dû se remettre à du shot making.
Ouais, tu l'as dit un peu comme ce qu'on avait dit un petit peu lors des previews. Le problème c'est que cette équipe, elle manquait beaucoup de cohérence. Elle avait des gros défauts défensifs, mais aussi des gros défauts offensifs. C'est pas tout d'avoir du star power en attaque. Il faut aussi une certaine cohérence. Je pense aussi que Frank Vogel n'a pas été très bon sur cette série dans le sens où ça manquait d'ajustement clair. On voyait à un moment donné que ça allait droit dans le mur et il a pas assez tenté autre chose. Après, je ne lui jette pas totalement la pierre parce que justement il y avait un roster qui était limité, on le sait dans les profils qu'il pouvait mettre en place, mais effectivement comme tu l'as dit, la défense c'était très compliqué. On pensait que c'était comme les Wolves étaient une attaque un peu poussive en saison régulière par rapport à leur qualité défensive, on pensait que les Suns qui avaient des schémas intéressants en saison régulière en défense pouvaient contenir un peu ces Wolves. Ça n'a pas été le cas parce que pour plusieurs raisons, hein, parce que les playoffs, c'est pas la même chose pour des joueurs comme Yusuf Nurkic, comme Kevin Durant, qui était bien meilleur défensivement aussi en saison régulière, parce que c'est plus simple, parce qu'on a plus le temps, et ça s'est beaucoup vu, je trouve, sur cette série. Je sais pas ce que t'en penses.
Après, Kevin Durant, ils ont réussi à l'exploiter défensivement, puisque sur la série, alors, ça peut sembler être un blasphème ce que je vais dire, mais sur la série, on pourrait dire que Kevin Durant a été un peu un one-way player, en tout cas sur les matchs que j'ai pu voir, plus les extraits que j'ai pu
regarder.
La fin
de série, notamment.
C'est ça, où en gros, Kevin Durant, alors, ils ont pu neutraliser le côté défensif de Kevin Durant en l'impliquant plus on-ball. On sait que la plus grande force de Kevin Durant, c'est sa capacité off-ball par rapport à sa longueur et à sa capacité à protéger, entre guillemets, le panier en tant que roamer. On l'a vu plutôt intéressant au début de la série là-dessus, notamment quand il était en roamer sur McDaniels. Mais après, au fur et à mesure de la série, ils ont commencé à plus l'impliquer on-ball, où il se faisait littéralement attaquer en one-on-one, du coup, soit par Anthony Edwards, soit par Karl Anthony Towns, voire même Nazrid, hein, par séquence qui arrivait à le mettre en difficulté. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que non seulement tu enlèves le meilleur défenseur loin du ballon, mais aussi tu le rends un peu, je vais pas dire inoffensif, mais tu le mets en difficulté parce que tu le prends sur une partie du jeu où il n'est pas bon, notamment par rapport à des joueurs soit plus dynamiques, soit plus puissants. Et c'est quelque chose qui, par rapport à Kevin Durant, c'est quelque chose où va falloir peut-être reconsidérer le niveau de Kevin Durant. Parce que là, il a été littéralement exploité un petit peu de ce côté du terrain.
C'est un grand cheval de bataille de Ben, notre boss en ce moment, dans la discussion d'un Cap 2. On parle beaucoup de Kevin Durant, donc je pense qu'on aura le temps d'y revenir, notamment dans les discussions DH20 un peu plus tard dans l'année. On va avancer sur la suite. On a fait un bilan un petit peu rapide. Hein. Faut savoir qu'aussi, en attaque, finalement, ça s'est vu les problèmes qu'on avait pu observer avant, c'est-à-dire que la qualité du shot making n'a pas, enfin, le manque de qualité de shot making a été un gros problème, surtout que Chris Finch s'est bien préparé et a fait ce qu'il fallait pour empêcher justement les shooters de prendre des shooters dans lesquels les shoots dans lesquels ils sont à l'aise et justement les a poussés à essayer d'aller au cercle, ce qui est une grande difficulté des Suns et le pourcentage des tirs à 3 points aussi. Le pourcentage de tir à 3 points pris est aussi assez famélique. C'est beaucoup de choses comme ça qui, beaucoup de défauts dans la construction du roster. Je voulais te demander où en est la franchise dans ce projet, justement, qui semblait en début de saison parti pour être un véritable contender éliminé au premier tour. Où on en est maintenant avec les Suns?
Ben écoute, c'est une équipe qui, en tout cas, ne matche pas la théorie de ce qui a été vendu. C'est-à-dire que, en gros, tu t'attends avec ces Suns-là à avoir une équipe globalement, vu le personnel, élite offensivement et un peu moyenne, on va dire, dans le bottom 20, globalement dans les 10 pires équipes de la ligue en défense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une équipe qui a été moyenne des deux côtés. Donc, ils ont été moyens en défense, donc ça, c'est plutôt bien. Et mais par contre, ils ont été, sur la saison régulière, aussi moyens en attaque. Et en fait, c'est là où tu te dis que le shot-making ne fait pas tout et qu'il y a ce manque d'implacabilité sur les choses rentables. Donc, tu vois, les Suns, on a beaucoup parlé de ce... C'est vrai que ça faisait pas mal débat, peut-être même avant de rentrer dans les playoffs, et là, ça a été aussi mis en valeur, enfin mis en exergue, le côté manque de porteurs de balles organisateurs, par exemple, où voilà, les Phoenix étaient une mauvaise équipe globalement sur toute la saison, sur le quatrième quart-temps, et qui pouvaient avoir des difficultés aussi à bien garder le ballon parce qu'ils perdaient pas mal de ballons. Donc là encore, tu vois, sur cette série, ils ont perdu pas mal de balles. Et encore une fois, là où on peut revenir sur le côté shot making et capacité du coup à générer des tirs, tu vois, sur la série face à Minnesota, là où Minnesota a été déjà très bon sur le fait d'enlever entre guillemets des tirs rentables, mais ils ont enlevé des tirs tout court parce que tu vois, sur le premier tour de playoff, Phoenix c'est l'équipe qui prend le moins de tirs au global. Notamment parce que bah, du coup, ils n'ont pas de possession supplémentaire. Mais aussi, non seulement sur la bataille des possessions, ils ont pris moins de tirs que leur adversaire. Ils ont pris le moins de tirs des playoffs. Mais ils commençaient chaque match avec 9 points d'écart uniquement sur la ligne à 3 points. Donc, globalement, tu vois, c'est une théorie qui ne peut plus matcher. Alors, soit avec l'effectif comme il est fait actuellement. Alors, il y a des circonstances atténuantes, hein, puisque Grayson Allen, qui fait partie du coup de ce qui rend cette équipe, ce qui peut rendre cette équipe, on va dire, létale offensivement, s'est blessé, je crois, dans le match 2. Oui, dans le match 2, de mémoire, se blesse à la cheville. Donc, à voir après, tu vois, comment ils vont... Donc là, ils l'ont gardé. C'est vrai que avec le personnel qu'on a pu voir, la théorie de l'équipe ne matche pas ça. Enfin, la réalité de l'équipe ne matche pas sa théorie. Et peut-être qu'ils vont devoir faire un changement de coaching pour que ça colle de cette façon-là. Ou sinon, ils vont devoir changer drastiquement le roster, mais ils sont pas en capacité de le faire, sans faire de gros sacrifices.
Ouais, ça, c'est quelque chose sur lequel on va probablement revenir plus tard. Hein. Oui. Difficulté pour améliorer l'équipe la saison prochaine. T'as dit quelque chose de très intéressant. Effectivement, ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu lors des playoffs. C'est il y a beaucoup de défauts en attaque. Je les ai évoqués un petit peu rapidement, mais le manque de playmaker principal, c'est-à-dire que Devin Booker n'est pas mauvais dans l'exercice. Bradley Beal n'est pas non plus catastrophique dans l'exercice, mais il manque vraiment ce mec qui prend l'équipe sur ses épaules pour générer justement une meilleure attaque. Le spacing n'était pas idéal. Il y a un axe 1-5 aussi, c'est-à-dire que Nurkic, on a beaucoup dit de bien sur la saison régulière à raison, puisque il a fait des choses très intéressantes, il a aidé ses Phoenix Suns, mais sur ses playoffs, on voit toutes ses limites en vérité. On voit que c'est pas un bon joueur pour jouer du pick and roll, ce qui est quand même assez intéressant de se reposer sur du pick and roll en playoffs et aussi défensivement hein, de toute manière. Donc l'axe 1-5 finalement est très important et puis les role players autour. C'est beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses du côté des Suns, ce qui n'est pas forcément rassurant sur l'état des lieux actuel.
Ouais, bah c'est sûr. Et puis encore une fois, tu vois, Nurkic, alors c'est vrai que on a vu, comme tu l'as dit, il y a la notion de spacing avec de manque de spacing, mais c'est vrai que c'est un pivot un peu de compromis Nurkic, hein, un peu à la manière de voilà des Valanciunas, des Nikola Vucevic. Voilà, ce sont des joueurs qui peuvent apporter leur écho, mais qui ne sont malheureusement élite nulle part. Et du coup, quand tu dois jouer contre l'élite et tu dois affronter l'élite, plus tu as des compromis, ben moins c'est difficile du coup de rester sur le terrain. Et je trouve que tu vois, Nurkic, il a disparu au fur et à mesure de la série, mais je pense que c'est aussi parce que notamment avec la perte d'Allen, ben, t'étais obligé de faire rentrer un joueur qui était moins une menace, donc t'étais obligé d'avoir un joueur qui était plus capable aussi de s'écarter par rapport à Nurkic. Tu vois, on a eu parfois il nous a sorti un peu du bol de temps en temps, des choses comme ça. On a eu un petit peu plus de Drew Eubanks, un petit peu plus mobile globalement. Donc parce qu'il fallait le fait d'avoir perdu ce dynamisme ou du moins d'avoir dû changer la géométrie du terrain, parce que globalement, hein, quand tu vois Grayson Allen, les joueurs que l'on remplace peut-être en termes de minutes, on a eu un peu de Gordon, il a pas été enfin il prend les tirs mais il est pas non plus il n'est pas non plus on resserre, la défense ne réagit c'est pas beaucoup à lui. Josh Okoji, on a eu un peu de Royce O'Neal, même un peu de Nazir Little à un moment donné, il nous a ressorti hein. Voilà, il a fait ce qu'il avait pu, mais tu vois, ça c'est pas la même géométrie en fait du terrain, tu es obligé de après de si tu veux rétablir un peu l'espace pour pouvoir continuer à jouer correctement offensivement et avoir du coup des espaces pour que tes joueurs offensifs puissent attaquer, bah tu es obligé du coup de changer un peu le pivot pour rétablir entre guillemets la géométrie de ton terrain quoi.
Ouais. C'est tout dit. C'est en fait quand t'as cité un petit peu les noms qu'il a fait rentrer, c'est là où on voit la difficulté qu'a eu Frank Vogel. Et ça m'offre une transition parfaite puisqu'on va passer au gros point de ce post-mortem. C'est les trois points à régler d'après toi. Et tu me les as donnés en amont. Donc le premier justement, c'est le domino au coaching. Et je pense que forcément ça va avoir lieu. Moi, je me pose juste la question, est-ce que j'ai du respect pour Frank Vogel, pour ce qu'il a essayé de faire, pour les difficultés qu'il a eues, mais est-ce que c'était pas une erreur de casting de vouloir justement ce coach plutôt aux fondamentaux défensifs pour une équipe qui sera forcément meilleure en attaque normalement si tu l'organises bien? Est-ce que c'était pas un problème? Et puis justement, parle-nous de ce domino au coaching que tu penses être un point à régler.
Par rapport à Frank Vogel, hein, ce serait très étonnant du coup qu'il reste le coach des Suns. Pourtant, il a été signé l'an dernier pour 5 ans, 31 millions sur 5 ans quand même. C'est pas rien pour remplacer du coup Monty Williams qui lui aussi a signé un pont d'or ailleurs. Donc, écoutez, venez vous faire payer aux Suns. Non, mais c'est vrai que en fait, je pense que la théorie, enfin encore une fois sur la théorie, hein, ce sont 17 équipes. Normalement, vu les talents offensifs qu'il y a, elle devrait pouvoir marcher sans trop de problèmes offensivement, ou du moins les joueurs sont capables de se créer des choses ou de générer assez d'attaques pour qu'on ne puisse pas s'occuper de ça, et la priorité ce sera de mettre en place un système défensif. Et en gros, globalement quand tu regardes, hein, l'équipe a surperformé entre guillemets offensivement par rapport aux attentes sur la saison régulière, et un peu sous-performé par rapport aux attentes en attaque. Mais encore une fois, tu vois, par rapport à Frank Vogel, c'est vrai que la créativité offensive était pas trop là. Après, tu vas me dire qu'il a pas, il avait pas forcément de matos pour faire grand chose, mais peut-être plus de Kevin Durant en poste 5. Mais encore une fois, hein, quand tu mets Kevin Durant en poste 5, il faut pouvoir trouver des joueurs à intégrer, hein, sachant qu'ils ont, ils ont perdu Grayson Allen. Voilà, t'as pas beaucoup de joueurs à intercaler, sachant que tu dois pas être trop petit, vu que la force physique et l'activité, en fait, qu'ils ont subi de la part des Wolves. Déjà, tu vois, ils étaient dominés au rebond. Ils ont pris énormément de secondes chances, des rebonds offensifs et tout ça. Donc, c'est vrai que si tu mets Kevin Durant en plus de minutes en pivot, bah, faut intégrer un joueur qui est plus petit. T'as pas de joueur vraiment qui puisse te... T'avais pas assez de matos, en fait, pour pouvoir peut-être avoir ça sur une longue durée, quoi. Donc, encore une fois, il a fait comme il a pu, même si on peut regretter, tu vois, l'absence de small pick and roll, ou, tu vois, des pick and roll entre Bradley Beal et Devin Booker, des choses comme ça. Mais, encore une fois, faut donner du crédit. C'est pas une équipe qui s'est battue toute seule, parce qu'il faut donner du crédit, tu vois, à cette défense des Wolves qui, sur le périmètre avec du Anthony Edwards, du Jaden McDaniels qui a fait vraiment une excellente série, aussi du Nickel Alexander Walker. Enfin, sur le périmètre, enfin, offensivement, c'est une équipe qui arrivait à faire très peu de différence. Et encore une fois, ça devait se remettre au shot making et à la création individuelle, sachant que il y avait très peu de premiers décalages trouvés.
Ouais, c'est tout ça en fait, c'est les difficultés qu'a rencontré finalement Frank Vogel. Tu penses du coup que effectivement, on voit mal comment il pourrait rester malgré l'énorme contrat à donner, surtout qu'on sait que Matić Bia s'en fout un petit peu justement de l'argent qu'il dépense, c'est pas vraiment le problème à proprement dit. Et tu penses qu'il y a vraiment des pistes pour améliorer cette équipe, toi, au terme de coaching, justement?
Ben, malheureusement pour eux, tu vois, le coach, ça va être peut-être le seul domino qu'ils vont pouvoir changer, puisque ils peuvent pas énormément changer les joueurs. En tout cas, les trois meilleurs joueurs de l'équipe, ça m'étonnerait qu'ils puissent en changer, mais après, à voir, hein, mais sauf
C'est jamais
sauf
Kevin
cataclysme. Je pense que les trois seront là au début de la saison prochaine. Ils ont pas de mécanisme financier à disposition pour signer des joueurs. Ils ont très peu d'assets globalement. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire entre guillemets, c'est changer le coach qui semble aussi avoir perdu le vestiaire. On a du coup un article de The Athletic qui est sorti où les joueurs se moquaient un peu de Frank Vogel, du moins ne le prenaient plus au sérieux. Donc c'est quelque chose qui était arrivé avec Monty Williams, qui semblait avoir perdu le vestiaire, notamment avec Ayton qui ensuite est parti. Là, on a Vogel qui perd le vestiaire après une saison. Donc ouais, il va commencer à avoir, va falloir faire attention à ces Suns, et les Suns qui sont aussi en difficulté parce qu'ils ont perdu leur assistant Kevin Young, qui est parti du coup du côté de BYU en NCAA. Donc écoute, on va avoir, je pense, les noms classiques qui vont revenir, potentiellement du Budenholzer, tu vois. Peut-être que, voilà, l'idée, ce serait de récupérer un coach qui arrive à faire matcher la théorie, voilà, qui arrive à faire matcher la théorie avec la pratique, c'est-à-dire partir sur de l'outscoring et de l'attaque à foison. Il y a certaines personnes dans la fanbase des Suns qui ont reparlé un peu de Mike D'Antoni, à voir encore.
J'ai l'impression qu'il est plus là, hein.
C'est ça. Donc voilà, je pense que va falloir partir sur un coach potentiellement offensif. Guillaume qu'on salue. Pardon, j'en perds mes mots. Guillaume qu'on salue qui a mentionné dans son podcast potentiellement James Borrego qui a un profil d'assistant offensif assez intéressant. Donc va falloir voir, mais c'est vrai qu'ils auront un pool de coach assez intéressant. Mais après, je doute que je pense pas qu'ils vont pouvoir récupérer le meilleur coach sur le marché.
Tu penses...
Vu la pression, tu vois, si t'es, vu la pression et ce qui s'est passé avec les deux coachs précédents, parce que mine de rien, si Frank Vogel part, ça fait trois coachs en trois ans pour un projet qui n'a pas trois ans.
Ouais. Donc,
le niveau de pression pour ce poste-là, avec un propriétaire qui semble ne pas être très patient, je pense que ça peut décourager en fait certains candidats.
Et pourtant, il va falloir trouver un bon coach pour régler un peu ton deuxième point à régler, c'est-à-dire l'identité de l'équipe, parce que ça va passer par le coach forcément, mais ça va passer peut-être aussi par les ajustements qu'ils pourront faire. Donc rappelons que les Suns ont beaucoup de mal à s'ajuster en termes d'effectifs, puisque étant dans la deuxième apron et avec les trois contrats de Booker, KD et Bradley Beal, à part à trader l'un de ces joueurs, et ça sera compliqué par exemple de trader Bradley Beal, parce que c'est le premier qu'on imagine un petit peu, on imaginerait plus, pourquoi pas tenter repartir sur un duo Booker KD mieux entouré, mais Bradley Beal, ce sera très compliqué de le trader étant donné la valeur de son contrat qui est énorme, le fait qu'il ait une no trade clause qui est toujours dans son contrat, et peut-être aussi la difficulté à trouver des partenaires tout simplement, hein, parce que à un moment donné son contrat vaut très cher et il y a eu beaucoup de blessures ces dernières années, donc c'est pas un joueur qui est extrêmement bankable pour un trade. Donc quoi qu'il arrive, ça sera très compliqué. Donc pour améliorer l'identité de l'équipe, comment ils vont devoir faire
Ben, je pense que ça à partir du coach, ils vont devoir retravailler un peu le côté offensif. Encore une fois, hein, les leaders de l'équipe ont une tendance à prendre beaucoup de tirs à mi-distance. On peut le voir, tu vois, sur cette série de playoffs. Si je vous dis que sur les playoffs, Kevin Durant a mis moins de 3 points que Najee Marshall et que Rui Hachimura, tu vois, ils ont besoin en fait de changer globalement la façon dont cette équipe va jouer, d'essayer de changer les tendances de ces joueurs-là en essayant de créer un système qui va faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise pour prendre des tirs inconfortables pour eux. C'est-à-dire que leur donner, on sait que voilà, c'est des joueurs qui auront tendance dans leur rythme à devoir prendre du pull-up. Mais tu vois, par exemple, potentiellement, avoir un système avec des pick and roll très haut pour qu'il soit une fois qu'il passe le pick and roll, qui ait un petit peu plus de passes au cercle. Et puis il va falloir aussi trouver des types de joueurs différents. Par exemple, c'est une équipe qui n'a pas de, si on prend de spacing vertical, tu vois, il y a pas de joueurs athlétiques au cercle. C'est qui manque globalement de verticalité pour aller trouver des positions au cercle, les tirs faciles près du panier. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui doit se redessiner, retrouver une attaque et partir sur de la full attaque, quoi. Devenir une équipe équilibrée sur un déséquilibre, quitte à prendre le risque de se faire torpiller en défense. Alors, on sait que c'est pas quelque chose qui va fonctionner peut-être en playoff, mais ce qu'ils ont essayé de faire ne fonctionne pas. Sachant que par rapport là c'est que le premier tour. C'est que le premier tour, ça veut dire que potentiellement s'ils étaient passés, ils auraient été confrontés à d'autres problèmes sur le second tour avec potentiellement des joueurs qui sont dans le roster qui n'auraient peut-être pas pu jouer encore une fois. Donc c'est vrai que c'est une grosse déception pour eux, pour moi de les voir, c'est une grosse déception pour eux de les voir sortir au premier tour, mais si l'objectif de cette équipe là c'est de jouer entre guillemets de jouer le titre, hein, littéralement, parce que quand tu vois ce qui est dépensé d'un point de vue salarial, d'un point de vue asset, et quand tu vois aussi les noms, tu te dis ben c'est une équipe qui a pour ambition de jouer le titre et qui en est très 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 loin, en tout cas dans la configuration actuelle.
Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que en fait ça n'a pas marché comme tu l'as dit de cette manière, et ça n'a pas marché de manière c'est-à-dire assez brutal. On a vu vraiment que ça ne pourrait pas marcher. Du coup, on se dit, je suis assez d'accord avec toi, je pars du même principe que là, ils sont presque obligés de partir sur quelque chose qui ressemble à de la full offense. C'est mais ça. Ça veut pas dire que ça va marcher pour autant. On a l'impression que c'est la meilleure solution avec ce qu'ils ont déjà et ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est pas forcément un avenir radieux qu'on annonce pour les Suns, mais on s'est déjà trompé et on se trompera encore. Donc, on verra bien la saison prochaine. Le dernier point que tu voulais régler, c'est la dépendance au contrat minimum. Est-ce que c'est vraiment réglable pour les Suns aujourd'hui de régler ce problème?
Ben oui, parce que voilà, les Suns, ils sont dans une situation financière compliquée. Donc cette saison, ils ont fini la saison avec 7 contrats minimum dans l'effectif. L'année prochaine, ils doivent déjà en avoir 3. On a Damien Lee qui a une player option, on a Drew Eubanks qui a aussi une player option, Drew Eubanks pour lequel ils ont perdu un second tour de draft pour tampering, quelqu'un a fait envoyer une demande de tampering pour Drew Eubanks, écoutez.
Ça fait mal,
ils ont perdu un second tour de draft pour ça, pour lui, entre guillemets. Ils ont aussi au minimum Josh Okogie qui a eu quelques minutes, et Eric Gordon qui a peut-être dû... Enfin, globalement, tu vois, les joueurs qui sont au minimum, qui sont restés, ben, ils sont pas si mauvais, qui vont potentiellement rester, ils sont pas si mauvais que ça. Mais après, il va falloir prouver d'autres joueurs. Et après, on le sait, Phoenix, ils sont dans une situation salariale assez difficile. Hein. Ils ont déjà à peu près 209 millions à peu près dans le cap. Et ils sont, selon Bobby Marks, ils sont à peu près à 16 millions au-dessus de la seconde apron. Donc, on va rappeler ce qu'est la seconde apron. C'est un montant qui est situé au-dessus, largement au-dessus de la luxury tax, où aujourd'hui, il y a des pénalités, en plus des pénalités financières, qui vous enlèvent de la flexibilité globalement dans votre façon de construire votre effectif. Alors, si on prend par exemple, de point de vue signature de contrat, donc ils ont droit uniquement à des contrats minimums. Et si on prend pour la notion de trade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agrégation de contrats possible, c'est-à-dire qu'on peut pas cumuler deux joueurs pour deux joueurs, donc on peut transférer que un pour un globalement, enfin, ou un pour deux, mais il faut absolument qu'on envoie plus de salaire qu'on en reçoive. Donc, encore une fois, ils peuvent pas encaisser plus de salaire lors d'un trade. Ils ne peuvent pas utiliser de trade exception pour récupérer les joueurs. Et ils ne peuvent pas non plus utiliser de cash dans les trades. Donc, voilà, ils sont vraiment extrêmement limités dans leur capacité à devoir, leur capacité de recrutement. Sachant que ils pourront potentiellement perdre Royce O'Neal, puisque ce même Bobby Marks a rappelé que re-signer Royce O'Neal au contrat auquel il est, c'est-à-dire à peu près 10 millions, ça coûterait en tout 55 millions. Juste pour le signer 10 millions, sachant que 10 millions, c'est à peu près le montant de la mid-level exception pour les équipes qui ne paient pas la taxe. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut être quelqu'un peut proposer à Royce O'Neal une mid-level exception. Donc voilà, donc il y aura potentiellement de la concurrence. Donc Phoenix aura peut-être besoin de le garder puisque ça a quand même été le cinquième temps de jeu sur les playoffs.
Oui, sachant qu'en plus, tu l'as pas dit, mais c'était évident vu qu'ils ne peuvent proposer que des contrats minimum, ils ont pas de mid-level non plus, même pas la tax player mid-level.
Non, ils ont rien.
Donc, en gros, la seule manière, il y a deux manières de se renforcer, signer des contrats minimum ou trader contrat pour contrat. Donc, ce qui est aussi très compliqué. Donc, c'est vraiment, vraiment très difficile. Et du coup, ça va être difficile. Ça va être intéressant à suivre, hein, de voir comment ils vont s'en sortir là-dessus. On va terminer justement avec les dossiers sous-cotés. Et l'un de ces dossiers sous-cotés que tu as voulu mettre en place concerne un peu celui qui va devoir gérer un petit peu toute cette mayonnaise, ou peut-être pas, parce qu'on sait jamais aussi, peut-être que ça va changer. C'est James Jones. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur James Jones?
Oui, James Jones, en fait, qui va se retrouver dans une situation difficile. Alors, c'est lui qui avait monté un peu l'équipe qui allait loin en playoff il y a 2 ans, qui a dû chambouler un petit peu ses plans avec l'arrivée de Matij Bija, notamment qui a voulu accélérer le projet, mais qui va devoir du coup il va devoir faire un peu ce que les Warriors ont fait, tu vois, la saison dernière, où tu vois là ils ont le pick 22 ou 23, je crois, à la draft, plus un pick 57. Ils vont devoir faire à peu près ce que les Warriors ont fait avec, par exemple, Podziemski et Tracy Jackson Davis, c'est-à-dire récupérer peut-être avec un premier tour un joueur polyvalent, toué, plutôt de grande taille, et peut-être trouver un pivot, peut-être rim runner, qui est quelque chose qui leur manque. Et on voit, tu vois, James Jones, l'année dernière, il a quand même réussi à faire, par exemple, Toumani Camara, qui a donné de bonnes minutes à Portland. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a un historique où, alors oui, il a eu quelques manqués à la draft, mais il a aussi quelques réussites. Donc, du coup, on va devoir avoir son rôle d'initiateur, pas d'initiateur, d'évaluateur, en fait, avec cette équipe-là, pour pouvoir récupérer des joueurs intéressants et, du coup, de pas se louper sur ces pics-là, puisqu'il a très peu de munitions.
Il a plutôt un œil, justement, quand on regarde l'historique, sur les joueurs un peu plus âgés. Je pense à Cam Johnson, qui avait surpris beaucoup de monde à l'époque et qui s'est avéré une très bonne draft.
Mikal Bridges aussi.
Mikal Bridges, évidemment. Même Jalen Johnson, hein, qui s'est pas épanoui du côté des Suns, a montré des bonnes choses ensuite du côté d'Indiana. Donc, on a plutôt confiance à ses qualités, à son
œil pour Smith. Ça.
J'ai dit quoi? J'ai dit Jalen Johnson. Excusez-moi, Jalen Smith, je voulais dire, oui. Il y a trop de Jalen en NBA, du coup on en perd la tête. Et justement, tu voulais nous parler un petit peu des jeunes aussi, Tom.
Oui, potentiellement. Alors la problématique, encore une fois, on l'a pas dit dans la partie précédente, mais c'est-à-dire que aujourd'hui les Suns, ils ont à peu près 124 millions alloués sur le backcourt. 124 millions alloués sur le backcourt, on rappelle que le salary cap, il y a 141 millions. Donc il comprend la masse salariale globale pour l'instant allouée des Suns. Bah, sur les joueurs de backcourt, ça représente la partie backcourt représente 60% du cap. Et ce qu'ils ont la chance entre guillemets d'avoir, c'est qu'ils ont des joueurs de plutôt ailiers, tu vois, du Nasir Little qu'on a vu et aussi potentiellement David Rudy qu'ils ont récupéré dans un trade avec Memphis, qui sont des joueurs qui ont un potentiel pour être des role players. Nasir Little, on sait qu'il y a des problématiques au niveau des blessures et aussi des problématiques offensives. David Rudy aussi, il y a pas mal de problématiques offensives malgré de la combativité et de l'énergie défensive. Mais ce sont des jeunes qui sont à un endroit qui est un peu désert globalement, on va dire, où c'est pas des jeunes qui sont bouchés par des contrats et des joueurs expérimenté, notamment sur le backcourt, qu'on peut l'avoir. Donc, ce sont des joueurs qui potentiellement pourraient avoir un boulevard s'ils restent en santé et s'ils progressent pour avoir des minutes l'an prochain. Donc, c'est peut-être, un peu d'espoir pour cette équipe-là, c'est d'avoir des jeunes potentiels role players qui pourraient les aider, juste apporter, 10-15 minutes. Je pense que ce sont des joueurs qui peuvent progresser assez pour apporter 10-15 minutes potentiellement en rotation la saison prochaine.
Oui, c'est des petits contrats en plus, donc ce qui est positif un petit peu pour les Suns. Et puis, comme tu l'as dit, ils ont de la place, ce qui pourrait leur permettre peut-être de se développer un petit peu plus aussi, et pourquoi pas d'apporter un petit peu plus s'ils arrivent à mieux se développer, à corriger quelques problèmes, notamment offensifs, hein, comme tu l'as dit.
C'est ça.
Ils pourraient rentrer dans une rotation et peut-être jouer plus que les 15 minutes qu'ils joueront au tout début et être intéressant.
Il y a un dernier. C'est deux joueurs de second draft, entre guillemets.
Il y a un dernier point dont tu voulais parler, Tom, et là je vais te laisser parler parce que j'attends de voir un petit peu ce que tu vas me dire là-dessus. Tu m'as noté le désespoir des autres. J'attends de savoir ce que tu caches derrière ça.
Ben, c'est-à-dire le désespoir des autres, c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement sauver peut-être le projet des Suns, c'est-à-dire qu'une équipe qui est désespérée avec un general manager qui prend un coup de pression du proprio et qui arrive dans sa dernière année de contrat, ben pourrait peut-être venir du côté des Suns pour leur proposer des offres démesurées, soit pour peut-être Kevin Durant ou peut-être pour Bradley Beal ou quelque chose. Enfin, le désespoir en NBA, le désespoir en NBA, ça va très très vite. Il suffit qu'une équipe rate par exemple deux cibles et finalement ben tu te dis écoute il faut que je fasse quelque chose. Si je ne fais rien, si je ne peux pas bouger et que je n'ai plus d'options, je vais peut-être appeler les Suns pour peut-être les soulager entre guillemets d'un contrat ou pour échanger un contrat plus long quoi. Après l'autre chose qui pourrait les sauver, c'est par exemple certaines équipes, on peut parler de Houston par exemple, qui ont des assets mais qui malheureusement pour eux, tous les contrats qu'ils peuvent envoyer pour faire des échanges aujourd'hui sont des contrats qui sont importants dans la structure de l'équipe. Donc ils pourraient tenter de récupérer certains de leurs contrats justement en échange de joueurs. Donc du coup ça abaisserait un peu le payroll des Suns, mais du coup ça leur permettrait d'avoir une espèce de trade exception humaine, par exemple avec un joueur sur un contrat plus long terme qu'ils peuvent ensuite échanger une fois qu'ils auront besoin de faire partir leur projet, un peu entre guillemets ce qu'ont fait les Knicks avec Evan Fournier, parce que voilà, juste avoir en gros une espèce de trade exception humaine pour matcher un contrat sur de plus longues années.
Ouais, c'est intéressant. Sur ce que tu as dit en premier point, j'ai l'impression que le salut un petit peu, même si je sais même pas si c'est ce qu'ils veulent vraiment, hein, si c'est ce que veut vraiment Matisse Thybulle, mais le salut passerait peut-être plus par un trade de Kevin Durant. J'ai du mal à voir comment Bradley Beal pourrait quitter les Suns cet été, en tout cas, avec son contrat, avec sa no-trade clause. Peut-être que dans un an, peut-être que lui sera plus ouvert à aller un peu n'importe où, mais pour l'instant, je pense qu'il ira pas n'importe où non plus. Et alors que Kevin Durant, après, on sait qu'il se lasse assez vite, hein, quand des situations sont compliquées, qu'il aura toujours une cote sur le marché, qu'il y aura toujours des équipes intéressantes qui sont prêtes à trader pour lui. Donc peut-être que ça passera par ça.
Moi je crois, franchement, j'y
pas sûrement
crois
plus.
Pas. Pour le coup, j'y crois pas trop. Pour le coup, j'y crois pas trop, sachant que voilà, on sait que par exemple que Devin Booker, Kevin Durant est l'un de ses joueurs préférés. Ouais. Ils ont une relation aussi assez privilégiée. Je pense pas qu'ils vont à part que si Kevin Durant décide de partir, hein, ce serait pas la première fois qu'il décide qu'il n'est plus heureux à un endroit où il a réclamé être. Donc à part ça, je vois pas et même en cas de désespoir, tu vois, il y a des équipes qui pourraient tenter de faire de gros moves. Tu vois, on a parlé peut-être de potentiellement Brandon Ingram qui pourrait être seul sur le départ du côté des Pelicans. Peut-être qu'il pourrait se laisser tenter par Kevin Durant ou quelque chose comme ça pour entre guillemets remplacer. Mais encore une fois, il faut je pense qu'il va falloir vraiment du désespoir chez notre équipe pour faire une offre qui pourrait faire réfléchir les Suns. Et le désespoir là, tu vois, je le vois pas.
Ouais, je vois très bien. Plutôt une équipe par exemple vraiment désespérée qui veut Bradley Beal, et Bradley Beal qui veut vraiment plus rester aux Suns parce que ça s'est mal passé, qu'on sait pas certaines choses, mais c'est des choses qui sont trop improbables en vérité pour que ça arrive.
C'est ça. Tu vois par exemple, pour le cas, alors ça, parfois ça parle un peu de Miami, tu vois, Miami qui enverrait potentiellement tu vois par exemple Tyler Hero et Terry Rozier du coup, simplement pour soulager un peu les finances, mais tu vois, Miami aussi a ses propres problèmes, tu vois, aussi ils sont au niveau de la prône, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et même tu vois pour les Suns, c'est quoi l'intérêt vraiment pour eux de récupérer Tyler Hero et Terry Rozier, quoi. C'est limite, tu vois, tu fais vraiment un mini pas de côté, quoi. Tu fais un Tulsi slide de Drake, tu vois.
Bon, on a fait un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais c'est déjà très bien. Je pense qu'on a fait un tour très large de ce qui attend les Suns, malheureusement, et que c'est pas très positif. On est désolé. On passe le salut à toute la clique du FC Soleil, notamment aux collègues du Valéo. Bon courage pour la suite parce que c'est pas forcément marrant, malgré la présence de nombreuses stars, comme quoi ça fait pas tout.
Regret Geisham.
C'est ça. Est-ce que tu as un dernier mot, Tom, avant qu'on se quitte?
Et Lucas aussi, tiens, Lucas. Bon courage aux fans des Suns. Bon courage aux fans des Suns pour cette intersaison qui s'annonce, on va dire, très mouvementée pour eux, en tout cas. Je pense qu'il y aura, même s'il n'y a pas beaucoup de mouvements, je pense que Ils vont essayer de faire un peu de continuité pour moi. Cette saison-là, normalement, la saison prochaine devrait être meilleure que cette saison-là. Même si je pense que la saison prochaine ne se finira pas forcément mieux. C'est-à-dire que ils auront plus de temps, l'équipe sera peut-être meilleure, mais vu la concurrence qu'il y aura, il y a des chances qu'ils ne puissent pas faire beaucoup mieux que ça. Et la problématique qu'il y aura avec ces Suns-là, c'est que ils vont arriver à un moment où, encore une fois, c'est une équipe qui n'est pas épargnée par les blessures, un peu comme les Clippers l'ont dit l'an dernier, ils vont avoir besoin que leurs joueurs majeurs jouent plus, alors Kevin Durant a beaucoup joué, mais je pense que c'est une équipe qui va, pour passer un tour désormais, devra absolument besoin d'avoir l'avantage du terrain. Mais pour avoir l'avantage du terrain, il va falloir que les meilleurs joueurs jouent énormément, et ce qui n'est pas une certitude avec le profil entre guillemets de joueurs qu'on a, parce que voilà, on sait que tu vois, Jokic, il est limité entre guillemets au nombre de minutes qu'il peut te donner à l'année. Kevin Durant, il a joué énormément cette saison, mais encore une fois, il vieillit, il va être dans l'année 18. L'année prochaine, c'est l'année 18. Devin Booker qui a aussi connu des soucis de blessure, Bradley Beal beaucoup de soucis de blessure. Voilà quoi. Donc c'est pas très encourageant, mais potentiellement ils peuvent s'attacher à l'espoir que la saison prochaine, normalement avec un peu de continuité, devrait être meilleure que celle de cette année.
Je crois que tu as tout dit. Malheureusement, c'est pas très très rassurant pour l'avenir des Suns, mais on essaie juste de faire le bilan que l'équipe mérite, hein. Et comme on dit, ça nous arrive pas mal de nous tromper aussi, donc oui. Souhaitons-vous le meilleur et que ça marche beaucoup mieux la saison prochaine, que vous ayez un super coach, etc. Parce que c'est une équipe sympa, même si cette année, ça n'a pas été le cas. J'espère que cet épisode vous a plu, et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des post-mortem. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux, et à bientôt. Ciao, Tom.
Salut.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.